Le grand témoin.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire découvrir celui qui sera notre grand témoin de ce dimanche. Lui, c'est le professeur Léonard Kabeyati-Koukou. Il est professeur d'économie et de développement à l'Université de Kinshasa, recteur honoraire de l'Université de Mbujimayi et cadre du parti politique Congrès pour la démocratie et le progrès social. C'est un parti politique de l'opposition. Professeur, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
Je vous remercie de votre invitation, madame.
Alors, avec vous dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radioocapi.net. Nous parlerons de votre parcours professionnel, mais aussi de votre expérience politique, puisque vous avez commencé la politique active en 1982. Ça va faire 33 ans. Que vous êtes en politique. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Kanyana. Je parie que c'est au Kasaï oriental.
Tout à fait.
Un certain 14 octobre 1943.
Oui.
Et c'est là où vous avez grandi?
Oui, en partie, oui.
Et l'autre partie?
L'autre partie, c'était en Nganajika, dans le, au chef-lieu du territoire de Nganajika.
Vous avez fait l'école primaire, c'est combien?
J'ai fait l'école primaire à Chilomba, à Tilen-Saint-Jacques, Chilomba, à quelques 90 kilomètres de Nganajika. Et puis une partie de l'école primaire à Nganajika. Et puis les études secondaires, je les ai faites à Nganajika, au collège Saint-Georges de Nganajika. J'ai fait les humanités gréco-latines de 1900.
C'était à la mode apparemment à cette époque-là, parce que la majorité des personnes que je reçois dans cette émission me disent avoir fait les humanités gréco-latines, ceux qui sont nés presque à la même période que vous, quoi.
Oui, 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 oui.
C'était à la mode.
Je ne dirais pas que c'était à la mode parce que en fait il y avait une infime minorité de jeunes Congolais qui allait, qui faisait des humanités. Les humanités n'avaient commencé qu'en 1949, lorsqu'on a instauré au Congo belge le programme métropolitain en 1949. Et les premiers qui étaient inscrits aux humanités sont sortis en 1953, décembre 53, et en janvier 54 s'ouvrait l'université Lovanium. Et donc, je dis, ce n'était pas vraiment à la mode, parce que je peux dire, je suis de la toute première couvée des gens qui ont fait les humanités entières dans ce pays.
Alors, c'était un choix personnel de faire les humanités gréco-latines.
Un choix, non, c'était les curés qui orientaient, mais il faut bien reconnaître qu'ils orientaient très très bien.
Okay. Ils ont été très bien. Et vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir fait ces...
Non, je ne crois pas parce que ça m'a ouvert plusieurs univers, les univers culturels, les univers civilisationnels, les univers scientifiques, plusieurs univers en tout cas. Et pour vous donner un exemple, à l'arrivée à l'université Lovanium en 1965, nous qui avions fait les humanités gréco-latines, nous avions la possibilité de nous inscrire dans n'importe quelle faculté. Alors que, bon, ceux qui avaient fait d'autres humanités n'étaient orientés que dans des facultés bien précises.
Et c'est comme ça que vous avez choisi de faire à l'université les sciences commerciales?
J'ai d'abord fait les sciences mathématiques et physiques jusqu'au niveau du graduat. Et j'ai changé, je suis allé faire les sciences commerciales et j'ai fait une licence complémentaire en sciences économiques avant d'aller me spécialiser en économie du développement à l'extérieur.
Le droit ne vous a pas tenté, le droit relations internationales ou sciences politiques?
Les relations internationales m'ont intéressé. J'ai fait le diplôme des hautes études internationales à l'université Lovanium, c'est vrai. Mais le droit ne m'a pas tenté. Par contre, la philosophie m'a tenté. Dès ma première année à l'université, j'ai fait la philosophie, notamment avec le professeur Craé.
Alors, professeur Léonard Kabeyati-Koukou, vous avez grandi dans quelles conditions?
Dans les conditions de tous les Congolais, tout jeunes, tous les Congolais, nous étions logés à la même enseigne, tous les jeunes Congolais, tous les jeunes adolescents Congolais. Nous subissions les mêmes pressions, les mêmes injustices, mais aussi nous avions les mêmes droits. Nous étions sous la colonisation, j'ai bien connu la colonisation. Bon, c'était pas les parents qui payaient les études, c'était le gouvernement colonial qui payait les études. Et voilà, nous en avons profité, on a tiré la couverture de son côté et on a été jusqu'à l'université.
Quel souvenir vous gardez de cette enfance? Quel bon souvenir que vous gardez de cette enfance?
Disons que c'était une enfance passée dans l'innocence, jusqu'au moment où, en 1958-59, il y a eu des soubresauts d'indépendance. Nos aînés ont crié fort que nous étions sous un régime qui n'était pas respectueux de notre dignité collective et de notre spécificité nationale, et qu'il fallait absolument que le Congo se libère. À partir de ce moment-là, nous avons compris que, en tant que jeunes, nous avions un rôle à jouer. C'est ainsi que j'ai eu des sympathies très très, très proches du MNC, Lumumba. Et après le MNC Lumumba, j'ai fricoté avec le PALU à la création du PALU en 1964. Ça veut dire que l'élan de la jeunesse, c'est un élan toujours généreux et qui voudrait que le pays grandisse, que le pays progresse, que le peuple se sente bien chez lui, et ainsi de suite. Ça, je n'ai pas échappé à la règle. C'était la règle de notre époque. Nous avons beaucoup rêvé de ce pays et vraiment ce rêve ne s'est pas réalisé du tout.
Et vous avez rêvé de faire la politique un jour?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Nous avons partagé le rêve commun d'être un grand peuple, une grande nation au cœur de l'Afrique, de montrer ce qu'un noir était capable de faire s'il travaillait dans l'indépendance. Nous avons partagé tout ça jusqu'au moment où on a vu les partis politiques se créer un peu en pagaille et on a dit il faut les aider, il faut les assister parce qu'on a une technicité. Sachez qu'en 1960, on nous a dit tout était prêt pour faire démarrer cette nation, il ne manquait que les cadres. Effectivement, en 1959, sont sortis quelques cadres, tout juste une poignée, qui n'atteignait même pas 15. Pour toutes les facultés, et donc nous étions en mal de cadre, et il fallait les former, mais nous qui étions de cette couvée, nous étions très désireux de nous mêler à toutes les aventures porteuses d'espoir pour notre peuple. C'est ainsi que, de fil en aiguille, on a travaillé pratiquement avec plusieurs partis politiques, et on a une expérience qui est, ma foi, large et décevante.
Après l'indépendance, est-ce que vous étiez content de l'accession finalement du Congo à son indépendance?
La vie avait changé en mal, la vie matérielle. Mais nous étions libérés des contraintes morales, spirituelles, des gens vivant sous l'esclavagisme collectif. Nous étions libérés de ça. Nous avions la liberté d'expression, on pouvait dire ce qu'on pensait, tout ça. On avait le droit de se tromper, on avait le droit de se faire excuser, ainsi de suite. Ça, c'est, je crois, ce qui était positif. Par contre, sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan social, on a vu se dégrader, tomber comme des châteaux de cartes, tout ce qui avait été construit sous les Belges et que nous tenions, dans notre naïveté, comme étant un acquis insuppressible. Mais c'est parti effectivement et nous avons dû déchanter.
Alors, professeur Léonard Kébert, tu coucou, marié?
Oui, marié.
Père de combien d'enfants?
Père d'une dizaine d'enfants.
C'est quoi votre plat préféré?
Mon plat préféré, ouais. Débit, écoutez-vous.
Avec un bon foufou?
Avec un bon foufou, ouais. Vous avez bien imaginé.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, professeur?
Dans la vie, je n'aime pas la trahison. Je n'aime pas le mensonge. J'adore la loyauté, j'adore la spontanéité. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la mauvaise foi, surtout la mauvaise foi.
Mmh. Ouais. Vous aimez le sport?
Oui, j'aime le sport, je l'aime plus que je ne le pratique, mais je l'aime. J'aime le sport, oui, c'est vrai.
Et lorsque vous étiez un peu plus jeune, vous n'aviez pas pratiqué des sports?
J'étais un grand athlète au collège et à l'école primaire, un grand athlète.
Ça se voit par votre taille. Hein?
Merci beaucoup.
Alors, professeur Léonard Kabea Chikuku, après avoir obtenu votre licence en sciences commerciales et industrielles à l'université de Lovanium, hein, vous avez été retenu comme assistant?
J'ai été retenu comme assistant parallèlement à des offres qui m'étaient faites en ville. Nous avions en ce moment-là un peu le choix. J'avais des offres venant de la banque, j'avais fait un stage très concluant à IBM.
Et là, ce sont les entreprises qui venaient chercher oui, les étudiants.
Effectivement.
Aujourd'hui, c'est le contraire, ce sont les étudiants qui courent vers les entreprises
Je le regrette beaucoup. Et je vous dis, ça me permet de revenir sur l'indépendance. La jeune génération que j'ai dans l'auditoire reproche à la mienne d'avoir poussé vers l'indépendance alors que toutes les conditions n'étaient pas réunies. J'ai une réponse que je considère comme une parade valable. Je dis, quand un enfant croit que son heure a sonné pour qu'il marche de lui seul, il fera tout pour lutter avec sa mère, pour lutter avec son père, et se laisser libérer et marcher seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber, il va tomber plusieurs fois, les gens vont lui reprocher d'avoir accepté la liberté, d'avoir réclamé la liberté trop tôt, mais il finira un jour par marcher de pied ferme, tous nous sommes passés par là, il y va des nations comme il y va des enfants. La nation congolaise, elle titube, elle tombe, elle passe de
55 ans après, nous sommes à quel niveau là?
Non, on ne peut pas désespérer d'une nation comme le Congo. Le Congo, c'est quelque chose à part, c'est quelque chose de particulier. On ne peut pas désespérer du Congo. Le Congo se remettra debout, je vous le dis.
Il faut attendre encore combien d'années?
Non, vous savez, le temps pour qu'un peuple se relève, ce n'est pas le temps astronomique, hein, la succession des jours aux nuits, des nuits aux jours. Non. Ce temps-là, c'est un temps historique. Et le temps historique peut surprendre un peuple à n'importe quel moment. Et donc, notre remise sur pied peut intervenir à n'importe quel moment. Vous avez vécu des événements dans ce pays qui ne me démentent pas de ce point de vue-là.
Alors, professeur, vous disiez que vous avez été retenu comme assistant
oui.
à l'université
oui.
et vous avez fait toute votre carrière pratiquement dans l'enseignement.
Oui, carrière dans l'enseignement et la recherche surtout, la recherche à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, ici chez nous, à l'Institut Africain de Développement Économique et de Planification à Dakar, au Sénégal, en 1973-74. Et puis, j'ai continué à l'Institut panafricain pour le développement, dont je suis devenu directeur après. J'ai été à Dar es Salaam, j'ai été en Belgique, juste pour faire des recherches et des études, ainsi de suite. Ça a été une longue et rapide carrière de 9 ans à l'extérieur. Au terme desquels j'ai présenté ma thèse de doctorat.
Et qu'est-ce que vous pensez de la recherche scientifique en RDC?
Elle est par terre.
Qu'est-ce qu'il faut pour la relever?
Pour relever la recherche scientifique, il faut qu'il y ait une classe sociale. Une classe sociale dirigeant le gouvernement et l'État. Et ayant intérêt particulier, cette classe, à ce qu'il y ait une recherche. La recherche, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, je vais vous donner un exemple. En Belgique, il y avait un institut, l'Institut colonial royal, qui était à Anvers. Qu'est-ce qu'on apprenait, entre autres matières? Comment, psychologiquement, dominer les Congolais, les faire obéir systématiquement quand on est au milieu d'eux et quand on est belge. Mais c'est un thème de recherche. Mais ils ont entrepris ce thème de recherche, ils ont creusé, en fait, parce qu'il y avait une classe, la classe d'affaires belge, et les administrateurs belges qui avaient besoin de dominer un peuple, de le réduire à l'état d'esclavagisme, et d'en exploiter les ressources. Donc, Ça peut vous paraître farfelu, ce thème, mais ça a été un thème de recherche avec des résultats qui sont aujourd'hui qui circulent. Et donc, ici, on n'a pas, au niveau de l'État, une classe sociale qui prenne en compte pour elle-même la responsabilité de commander une recherche dans son intérêt propre et dans l'intérêt de la nation. Ça n'existe pas. Ça, c'est une condition essentielle.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cette classe sociale puisse exister?
C'est dans le saut qualitatif des nations. Et tout à l'heure, j'ai parlé avec vous. Je vous ai dit que nous sommes dans une nation dont nous avons raison d'attendre des rebonds. Et c'est dans un des rebonds qu'on aura ce type de transformation qualitative. Ça ne se fait pas à la semaine, ça ne s'improvise pas. La recherche, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez aujourd'hui des financements qui proviennent des gens de l'extérieur, qui s'adressent aux universités congolaises et aux instituts de recherche congolais, mais sur des thèmes qui sont les leurs, parce qu'ils veulent, ces bailleurs, ils veulent réellement résoudre les problèmes qui sont les leurs. Ben, nous n'avons pas ce genre de demandeurs institutionnels à l'intérieur de notre pays, il faut bien se dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas ce genre de demandeurs, et donc l'absence de la recherche n'incommode personne.
Professeur, vous n'êtes pas seulement professeur d'université, vous êtes aussi homme politique.
Homme politique, j'hésite un peu.
Pourquoi?
J'hésite un peu, je suis politique, je suis patriote, j'ai une relation d'intimité avec cette nation et son peuple. Je fais tout pour pousser, pour que les choses aillent au mieux. Et je suis à l'intérieur d'un parti politique, le CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social, qui a une ligne particulière que j'adore. La ligne, c'est la suivante. Aucun parti politique ne pourra gouverner seul dans la démocratie une république aussi diversifiée, aussi immense.
Alors, on va revenir sur le CDPS, le Congrès pour la démocratie et le progrès social, parti politique dans lequel vous évoluez actuellement. Mais vous commencez la politique active quand même en 1982.
Oui, bien, disons politique active, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, je suis engagé depuis 1960 derrière nous étions un troupeau de jeunes qui suivaient les aînés, les pères de l'indépendance, qui les applaudissaient, qui faisaient ça. C'était un engagement à mon niveau. Lorsque
sans trop savoir pourquoi vous faisiez ça.
Non, sachant très bien, j'avais fait les humanités gréco-latines, madame, je vous rappelle. J'ai fait les humanités gréco-latines, j'étais au fait des civilisations, au fait des transformations politiques, je savais à quoi je m'engageais, je savais ce que les autres demandaient, j'y avais adhéré en toute conscience. Oui, mais lorsque le premier gouvernement n'a pas su tenir, pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas revenir à l'heure actuelle,
pas, c'est l'histoire, professeur.
C'est l'histoire, si vous le voulez bien, oui, l'histoire. Vous avez une question précise là-dessus?
Oui, pourquoi vous ne voulez pas en parler, pour parler de l'échec du premier gouvernement?
Parce que c'est une blessure narcissique. C'est une blessure pénible pour notre nation. L'échec du premier gouvernement dans ce pays que nous avions élu librement, démocratiquement, consciencieusement, ça a été, c'est une blessure narcissique. Le départ de ce gouvernement a apporté à notre cœur une blessure qui ne s'est pas encore totalement fermée.
C'était quoi le problème?
Le problème, c'est que nous en demandions un peu trop. Et ceux devant qui nous nous trouvions et qui avaient tous les moyens de nous faire bouger dans n'importe quel sens ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Ils nous ont dicté leurs lois et ça a été un échec. Nous étions un tout petit peu naïfs. On a cru que ça irait mieux, il suffisait d'être ensemble et tout et tout. Les gens ont même financé notre propre dislocation, ainsi de suite. Donc ça a été un échec, ça a été une désillusion, effectivement, amère. Oui.
En 82, vous adhérez à l'UDPS.
Oui, d'abord en 64.
En 64.
Oui, au Palou.
Palou,
oui. Oui. Et bon, le Palou a été un peu dans l'hibernation pendant un certain temps, lorsque le chef était ailleurs, était exilé, c'est resté dans le... Et l'UDPS, ça a été, il y a eu une initiative intérieure en 1982 contre la dictature de Mobutu. J'ai adhéré fortement et consciencieusement à ça. J'ai travaillé avec ce parti assez longtemps.
Jusqu'en 2010,
oui.
Avant de quitter le parti, oui. Avec d'autres cadres de l'UDPS pour créer...
Le CDP.
Le CDPS.
Oui, le Congrès des démocrates pour le progrès social, oui, effectivement.
Pour quelle raison?
Parce que nous estimions, et là je ne lance de pierre à personne, parce que nous estimions que ce n'était pas exactement la politique que nous voulions faire, qui pouvait sauver la nation. Là je rejoins ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous avons une vision de ce pays. La vision, c'est celle-ci. Le pays est immense et diversement constitué. C'est un pays de plus de 450 ethnies, plusieurs langues nationales, plusieurs cultures, plusieurs biotopes, reliefs différenciés, tout ce que vous voulez. Rien que les lacs, les surfaces d'eau de notre pays, mis bout à bout, ça vous fait la surface de l'Europe occidentale. Et donc, nous sommes dans une grande nation dont nous sommes très très fiers. Mais alors, on se dit, nous voulons nous gouverner dans la liberté, dans l'indépendance. Il ne faut pas le faire dans le manichéisme, c'est-à-dire tout ou rien, ceci ou cela. Non, les grandes nations ne se construisent jamais dans blanc ou noir, tout ou rien, ainsi de suite. Nous n'étions pas de cela. Deuxièmement, nous n'avons pas accepté que le paradigme selon lequel, dans ce pays, un seul parti politique, quelque grand qu'il soit, puisse gouverner la République. Non, ça, nous n'avons pas voulu. Nous croyons, nous, foncièrement, que c'est avec les autres, c'est en s'ouvrant aux autres, c'est en négociant avec les autres, que ce soit les adversaires, que ce soit les amis, nous voulons, avec les autres, bâtir des alliances avec les autres, de manière à gouverner ce pays dans le plus large consensus et compte tenu des aspirations de notre peuple.
Ce n'était pas une question de leadership.
Non, ce n'était pas une question de personne. C'était une question de leadership, mais ce n'était pas une question de personne. C'est une question de leadership. Je m'abstiens de commenter ce qui est en train de se passer, mais je vous dis globalement que ce qui est en train de se passer nous donne raison, malheureusement.
Mais on aurait même appris, professeur Léonard Kebeachikoukou, que c'est le régime en place qui serait à la base de cette dislocation au sein de l'UDPS. Vous aurez touché un peu d'argent pour créer votre parti avec certains cadres comme l'ambassadeur Belchika, qui est d'ailleurs le président.
Oui.
Du parti, Monsieur Mutombo Sosola, Monsieur Vincent Chabani, Monsieur Aka Montia.
Oui.
Je m'arrête là. C'est parmi les personnes, hein,
oui,
avec qui vous avez créé ce parti.
Oui, c'est vrai. Ça se dit, mais mettez ça dans le panier de tout ce que les Congolais racontent et qui nous rabaissent, en fait. Est-ce que vous voyez un gouvernement qui fait le Saint-Nicolas, qui est en train de distribuer de l'argent? Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, qui est resté distribuer de l'argent dans les dislocations ultérieures? Qui est resté? Non, c'est une question de leadership, c'est une question de vision. Nous n'avons pas accepté le leadership, nous n'avons pas accepté la vision, et nous en avions une alternative, et nous l'assumons devant l'opinion. Nous nous sommes constitués un parti à part entière, nous assumons notre choix, et nous en faisons l'ombre de nulle part, nous le confessons devant tous nos compatriotes, et nous travaillons avec tous les partis et toutes les sensibilités.
Tous les partis, que ce soit de la majorité ou de l'opposition?
Oui, mais différemment. Quand on est au gouvernement, on a des responsabilités et on doit répondre sur certaines choses. Nous prenons contact avec les gens au gouvernement pour leur dire ce que nous ne voyons pas correctement fait. Et les gens de l'opposition, quand ils aboient dans n'importe quel sens et inutilement, on leur dit non, ça, ce n'est pas correct. Et par contre, ce qui est correct, ce qui est dans la droite ligne, que ça vienne de la majorité ou ça vienne de l'opposition, nous applaudissons ce que nous voulons. Nous sommes des ouvriers de la République. Ce que nous voulons, c'est faire avancer la machine du pays, c'est faire venir le progrès dans notre nation, c'est lui faire réacquérir la dignité perdue et la cohésion perdue.
Mais on a l'impression que le CDPS, c'est quand même parti mort.
Mort comment?
Oui, parce qu'on ne vous sent pas sur la scène politique.
Non. On nous sent sur la scène politique. Poser la question aux états-majors des autres partis, ils savent que nous leur envoyons des analyses, ils savent que nous leur envoyons des requêtes, ils savent que nous leur envoyons notre point de vue. Nous tenons des meetings, nous nous organisons, nous tenons des conférences de presse, nous avons une base que nous construisons sur l'ensemble du pays. Nous sommes vivants. Mais, vous savez, il y a une façon de vivre. Des partis politiques congolais, nous ne la partageons pas, c'est d'aboyer. Vous êtes au gouvernement, vous aboyez, vous êtes dans l'opposition, vous aboyez. Le travail de fond, qui est celui d'instruire le peuple, de le diriger dans la vérité, dans la fermeté des options, dans une vision clairvoyante, ça, ce travail, il est très très mal fait, en général, par l'un des formations politiques de notre pays.
Alors, professeur, vous dites que vous travaillez avec l'opposition, la majorité, ça veut dire que vous êtes au centre, centriste?
Non, pas du tout.
Vous êtes dans l'opposition?
Non, nous sommes dans notre peuple et à son service.
Vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité?
Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Ça veut dire que nous ne sommes pas au gouvernement, nous n'avons pas été au gouvernement, le gouvernement est là, nous n'avons pas été au gouvernement. Le programme selon lequel le gouvernement dirige le pays n'est pas le nôtre, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été pris au gouvernement pour gérer le programme qui est en cours, et par conséquent, nous sommes de l'opposition. Mais si au gouvernement on fait des choses qui sont des choses convenables, eh bien nous applaudissons. Non seulement nous applaudissons, nous donnons parfois des satisfactions. Mais si par contre il y a des choses qui ne sont pas correctes, nous ne nous abstenons pas de le dire. Mais il faut le dire d'une manière constructive, de manière à ce que la barque avance. Par exemple, madame, à l'heure actuelle, du point de vue de notre constitution, il y a un parti qui a été proclamé par la CI comme étant le parti gagnant des élections. Nous sommes dans des institutions républicaines. Ce n'est pas le moment d'aller clamer que le CDPS doit venir au gouvernement, qu'il faut un gouvernement de transition, qu'il faut un gouvernement de ceci. Non. Nous laissons ceux qui ont la responsabilité devant notre peuple de gérer, l'attitude de gérer, mais de répondre. Tout à fait. Nous sommes des républicains. Et donc, si, par exemple, le mandat est terminé, eh bien, le mandat est terminé. La Constitution le dit, le mandat est terminé. On doit procéder aux élections et on doit les faire dans les règles de l'art et selon la Constitution.
Alors, professeur, on va souffler un peu avant de poursuivre notre entretien. Comment vous passez vos moments de détente?
J'écris, je lis beaucoup. J'ai comme détente la lecture, la réflexion, l'échange, le débat. Voilà ma détente. C'est mal parti pour la santé, mais j'ai été formaté comme ça.
Est-ce que il vous arrive aussi de vous détendre avec la musique?
Oui. Mais vous me voyez hésitant, non? En disant oui, c'est un ouais, ce n'est pas un oui. Parce que la musique, je vous ai dit que j'ai fait la philosophie.
Oui.
Bien, j'ai fait la philosophie de l'art et l'anthropologie. Je sais que la musique est un message que les artistes, puisant les forces et les thèmes dans leur propre peuple, adressent à l'histoire. Mais la musique que j'ai aujourd'hui, c'est une musique tout à fait désaxée, qui ne nous laisse pas le cerveau, qui ne laisse pas à nos cerveaux la possibilité de réfléchir Nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de ne pas vivre dans le bruit. Or, la musique à l'heure actuelle participe du bruit. Nous avons créé une civilisation du bruit au Congo. Vous allez dans le culte, c'est le bruit. Vous allez à la messe, c'est du bruit. Vous êtes dans la rue, c'est du bruit. Vous êtes dans le taxi, c'est du bruit. Vous êtes dans le bus, c'est du bruit. Vous êtes à la maison, c'est du bruit. Et partout, du bruit. Donc, moi, je fuis le bruit. Et fuyant le bruit, je ne suis pas preneur de la musique qui nous fait danser. Et d'ailleurs, il n'y a pour musique aussi, ici que la musique qui fait danser.
Vous n'aimez pas danser.
Je ne suis pas un danseur. Je n'en ai pas la tête.
Mais quand il vous arrive quand même d'écouter la musique, c'est quel genre de musique que vous écoutez?
La musique qui repose l'esprit, qui remet les esprits en place.
C'est une musique classique?
Oui, de toutes les nationalités, la musique douce, en fait, de toutes les nationalités. J'adore la musique douce, une musique qui ne signale pas sa présence. Voilà la définition de la musique que j'aime.
Un titre qui vous vient à l'esprit de cette musique?
Non, une musique qui est là, mais dont...
Mais est-ce que vous avez un titre qui vous vient à l'esprit, comme ça?
Quoi?
D'une chanson qui ne signale pas sa présence, voilà, comme vous l'avez dit.
Non, mais il y a la musique douce, la musique classique, la musique, il y a des Beethoven, il y a 36 choses. Il y avait même la musique de GR congolaise dans l'ancien temps. Kanza, c'est l'autre là, le garçon.
Lokwa Kanza,
par exemple. C'est une musique qui fait réfléchir. C'est une musique qui fait réfléchir. Il y en a d'autres qui font de la musique qui renvoie au pays, qui renvoie au thème que j'adore, la nation congolaise, sa marche, sa souffrance, son espérance, voilà, l'unité du peuple, ainsi de suite.
Voilà, on va vous faire plaisir, professeur, avec une chanson de Lokwa Kanza.
Oui.
Comme vous aimez la musique douce, une musique paisible, calme,
oui.
On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose, comme on a tant vécu.
J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour, comme on l'a jamais vu.
Tant que l'eau coule dans nos veines, c'est ma flamme et je prie pour que jamais elle ne s'éteigne. Oh, plus vivant
que l'amour qui se donne,
que l'on sent
dans tout ce qui résonne,
plus vivant
que l'oiseau qui s'envole. La douceur de la nuit, le bruit et les larmes, la chaleur de la pluie.
Si la pâle temps a vaincu nos envies, alors je me sens encore plus près d'ici. Plus vivant que l'amour qui se donne,
que l'on sent
dans tout ce qui résonne.
Plus vivant
que l'oiseau qui s'envole. Qui laisse en passant la trace du vent.
C'est ma flamme et je prie
mon bébé,
pour que jamais ne s'éteigne.
Elle est
beau. Ah, ah, ah.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui le professeur Léonard Kabea Tshikuku, professeur d'économie et de développement à l'université de Kinshasa, recteur honoraire de l'université de Mbujimayi, cadre du parti politique Congrès pour la démocratie et le progrès social, un parti politique de l'opposition. Professeur Kabea, Grand Témoin, c'est aussi l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez du dialogue? Faut-il aller au dialogue ou pas?
En principe, une nation qui ne dialogue pas avec elle-même, elle est morte, en principe. Le dialogue doit être institutionnalisé, le dialogue doit être permanent, l'échange doit être permanent. Et je vous ai dit que un des principes fondateurs de notre parti, c'est de maintenir entre les Congolais un dialogue permanent. Mais le dialogue institutionnalisé, à une période bien déterminée entre politiques, c'est un dialogue qui pose un certain nombre de problèmes et qui demande un certain nombre de préalables qui ne sont pas toujours remplis. Le dialogue dont vous parlez, je crois, c'est celui dont tout le monde parle.
Qui fait l'actualité aujourd'hui.
Oui, c'est concocté, c'est organisé entre certaines formations politiques, en exclusion, il faut que je le constate, d'autres formations politiques. Pour quelle légitimité de la démarche, on ne sait pas trop bien quoi. Et puis, c'est un dialogue qui est engagé sur des thèmes sur lesquels nous n'avons pas eu le temps de nous prononcer. Nous, on aurait souhaité, par exemple, que le dialogue n'aille pas dans le sens de contredire ou de tout simplement aller à l'encontre de la Constitution. La Constitution, c'est le bien suprême que nous avons dans une diversité aussi large, aussi infinie comme ici au Congo. Si vous ne respectez pas la Constitution, tout vole en éclats. Et donc, la Constitution, elle est la loi suprême et elle doit être respectée. Il ne faut pas sortir du dialogue avec des gouvernements, je ne sais pas.
L'Union nationale.
Non. Ceux qui ont eu mandat de mener la politique du pays doivent avoir leur mandat jusqu'à la fin. Et ils doivent nous produire le bilan. Et nous tournons la page, nous passons à une autre mandature. Voilà. Et donc, si le dialogue exclut ce type de gouvernement, exclut
partage du gâteau.
Oui, le partage du gâteau. J'aime vraiment pas ça. Le partage du gâteau, on n'a vécu que des partages du gâteau. Et ça nous a mené nulle part. Donc, tel que c'est engagé, je dois vous dire que ça ne promet pas de grandes réussites pour notre peuple.
Et donc,
Globalement.
Et donc, vous êtes contre?
Je dis, je ne suis pas pour.
Vous êtes contre?
Je ne suis pas pour. Quand on n'est pas pour...
On est contre.
Oui, bon, je vous laisse tirer la conclusion. Mais je vous dis, je ne suis pas pour quant à la manière, quant aux objectifs, quant aux procédures, quant aux représentativités et... Par conséquent, quant à la légitimité de la démarche elle-même par rapport aux grands thèmes, aux grands défis de notre peuple.
Voilà, professeur, j'ai oublié de mentionner que vous avez dirigé le troisième cycle en économie.
Oui.
Vous avez été chef des départements.
Chef de département des sciences économiques, j'ai dirigé le troisième cycle à l'université de Kinshasa, oui c'est vrai. J'ai été pratiquement de plusieurs combats. Je ne dirais pas de tout le combat, personne ne peut être de tout le combat. Mais le combat maintenant, avec ce que j'ai comme âge, au sein de ma génération qui devient de plus en plus démographiquement minoritaire, nous aurions souhaité mourir et laisser ce pays plus florissant que nous l'avons trouvé. Et c'est, je crois, l'engagement que nous avons pris et dans le domaine de la science, et dans le domaine de l'éducation, et dans le domaine de la politique.
La réalisation me signale qu'on a plus beaucoup de temps. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent.
Le dernier mot, c'est de dire, je voudrais inviter la jeunesse. Elle est la plus nombreuse. La jeunesse est la plus nombreuse, la fraction la plus nombreuse de notre peuple. Et cette jeunesse n'a pas vu venir l'indépendance. Elle l'a trouvée. Elle l'a trouvée dans la pagaille. Je voudrais inviter la jeunesse à aimer profondément ce pays, à travailler pour lui. À ne jamais penser chercher des paradis ailleurs. Le Congo a été bâti par la divine providence comme un grand peuple et une grande nation. Je voudrais inviter les politiques à aimer profondément ce pays, à travailler pour lui. Je voudrais inviter tous les militants de notre parti à aimer leurs compatriotes et à travailler pour l'intérêt profond de notre peuple. Voilà ce que j'avais comme mot. C'est adressé à notre nation, adressé à notre peuple.
Merci beaucoup, professeur Léonard Kiabea Chikuku, professeur à l'université de Kinshasa, recteur honoraire de l'université de Mbujimayi et cadre du parti politique CDPS, Congrès pour la démocratie et le progrès social, un parti politique de l'opposition. Merci à Mimi Kindou qui était à la prise de son, au micro Kevin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.